Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Bruno Mourlan. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Lapierre et Michel Pastoureau pour parler des arts sacrés. Jean-Pierre Lapierre, bonjour. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous. En effet, ce qui vous réunit ici, Jean-Pierre Lapierre et Michel Pastoureau, c'est que vous avez publié l'un et l'autre des ouvrages dont nous allons parler et... ce qui est mis en perspective en fait dans vos ouvrages, c'est justement cette question de l'art sacré. Qu'est-ce que l'art sacré? Comment le regarder? Comment l'interpréter? Comment le comprendre? Éventuellement, comment le vivre? Mais avant d'en arriver là, donc une courte présentation de l'un et de l'autre. Jean-Pierre Lapierre, vous êtes philosophe de formation, mais surtout, vous avez été pendant plus de 30 ans chargé de collection de livres religieux et historiques aux éditions du Seuil. C'est dire que vous avez une très très longue expérience des questions justement religieuses et historiques. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui publiez donc aux éditions du Seuil un ouvrage monumental, hein, 3 volumes d'une écriture bien serrée. Ouvrage qui s'intitule « Le musée chrétien, dictionnaire des images chrétiennes occidentales et orientales ». Dans cet ouvrage, vous explorez les thèmes et les symboles qui constituent la culture chrétienne et partant les références... les référents fondamentaux de tout l'art sacré chrétien, référents sans lesquels nous sommes inaptes en fait à comprendre ce que nous disent les œuvres d'art qui constituent précisément cet ensemble qu'on appelle l'art sacré de la chrétienté. Michel Pastoureau, vous êtes historien, spécialiste des images et des symboles, et on vous connaît bien en fait pour le travail novateur que vous avez mené sur la symbolique l'histoire et la signification des couleurs. Vous avez une formation de médiéviste et vous avez publié aux éditions du Seuil, justement, alors peut-être avec Jean-Pierre Lapierre, donc vous avez publié aux éditions du Seuil de très nombreux livres, dont certains ont été traduits dans plusieurs langues, dans plus d'une dizaine de langues. Parmi les plus récents, une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental, l'art héraldique au Moyen-Âge, bestiaire du Moyen-Âge, vert, l'histoire d'une couleur, et aujourd'hui, toujours aux éditions du Seuil, donc vous publiez tympan et portail roman, avec des photographies de Vincent Cunillière. Ça, il faut dire Cunillière, c'est comme ça que ça se prononce.
Cunillière.
Cunillière. Et dans cet ouvrage, en fait, vous nous invitez à ouvrir notre regard à cet espace très particulier que sont les tympans des églises ou des cathédrales, seuil du sacré, passage entre le monde profane et l'espace consacré, espace que souvent on regarde sans pouvoir les décrypter. Parce que précisément, notre regard d'homme du 20e, 21e siècle eh bien, a peut-être perdu la mémoire et la signification symbolique qui était très claire pour les gens à l'époque médiévale.
Oui, oui et non. C'était très clair pour ceux qui avaient un savoir que tout le monde n'avait pas. Donc il y avait entre les images et le fidèle qui les regardait, parfois des intermédiaires qui aidaient à comprendre, à lire. Ce livre est un livre de photographie à l'origine. C'est le photographe Vincent Cunillière qui en a pris l'initiative. Moi j'ai écrit les textes, j'ai choisi les images et j'ai essayé de faire passer dans mon introduction notamment les acquis récents des recherches sur la sculpture romane. Et je n'aurais pas écrit ce texte de la même façon il y a 30 ou 40 ans par exemple. On a beaucoup travaillé sur la sculpture romane et corrigé un grand nombre d'idées reçues. Donc il semblait que le grand public avait le droit d'avoir accès à ce type d'informations venues des milieux universitaires.
Mais par exemple, là c'est intéressant ce que vous dites, donnez-nous un exemple d'une idée reçue et sur laquelle on est complètement revenu, qui est très importante.
Il y en a beaucoup, par exemple l'idée qu'il y a de très grands sculpteurs qui travaillent isolément, qui ont un génie personnel et qui sont admirables comme les artistes de la Renaissance ou ceux d'époque plus récente. Non, ça il faut oublier tout ça pour l'époque romane et même pour l'époque gothique. Il n'y a pas d'artiste isolé, de génie qui aurait signé ses œuvres. Tout ça est abandonné. Un point particulier sur lequel j'attire l'attention, c'est justement celui de ces noms inscrits dans la pierre. un tel fait quitte, un tel a fait, comme le fameux Gisle Bertus du tympan de la cathédrale d'Autun. Pendant des générations et des générations, les historiens de l'art ont cru qu'il s'agissait du nom du sculpteur qui avait signé, entre guillemets, son travail. Aujourd'hui, on en est beaucoup moins sûr. Il y a quelques controverses pour savoir si c'est le nom d'un commanditaire, si c'est le nom d'un seigneur qui a offert des reliques à l'église d'Autun, non pas à l'époque de la sculpture romane, mais bien antérieurement. Bref, on a abandonné cette idée des artistes qui signent, entre guillemets.
Ça, ce sont des écoles, ce sont des...
Ce sont des chantiers qui se déplacent, ce sont surtout des travaux collectifs qui répondent à des commandes, et ces commandes sont très différentes selon qu'elles émanent d'églises qui relèvent de l'évêque ou d'églises qui relèvent de l'abbé. Ce n'est pas du tout le même monde, le monde de l'évêque et le monde de l'abbé. Donc tantôt on a des églises cathédrales et paroissiales, tantôt des églises abbatiales et priorales, et le programme et peint n'est pas du tout le même. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde en a conscience, en tout cas chez les spécialistes, mais il y a 50 ans, c'était moins clair. En outre, on sait qu'on ne peut plus étudier une église, pour l'époque romane, isolément. Toute église fait partie d'un réseau. Est-ce qu'on est chez le clergé séculier ou le clergé régulier? Si ce sont des réguliers, sont-ce des bénédictins, des cisterciens, d'autres ordres? L'attitude vis-à-vis des dogmes et vis-à-vis de l'actualité politique presque de l'Église n'est pas la même selon ces différents ordres, et ça se lit dans la pierre. Donc il faut retrouver tout cela pour mieux comprendre les programmes sculptés.
Alors juste encore une petite question sur, puisque vous parlez de l'art roman, pour nos auditeurs qui ne savent pas très bien ce que c'est que l'art roman, la période romane, c'est quelle période exactement ?
C'est un peu flottant parce que ça varie selon les pays et les régions. En gros, disons, c'est ce qui commence après l'an 1000, au début du 11e siècle, et pour la sculpture qui se prolonge vers la fin du 12e siècle, la deuxième moitié du 12e siècle. Et qui... Donc 11e et 12e siècle.
Et qu'est-ce qui caractérise typiquement l'art roman ?
Ah, alors, la définition, à l'origine, elle est pour l'architecture, et on l'a étendue abusivement à d'autres formes de la création artistique, la sculpture, la peinture, l'enluminure, le vitrail. Donc, les chronologies et les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes selon les différentes formes de création artistique. Moi, je ne m'occupe ici que de sculpture, hein, puisqu'il s'agit de tympans et de portails sculptés. Donc par rapport aux époques précédentes et aux époques suivantes, on a d'assez grandes différences. Par rapport aux époques précédentes, on a une iconographie plus abondante, plus débridée, plus en prise avec différentes sources livresques, pas seulement les écritures, mais aussi d'autres types de livres, notamment des livres profanes, les bestiaires, par exemple, pour une bonne partie du décor animal. Par rapport à la période suivante, l'époque gothique, on a aussi d'assez grandes différences. Les relations entre la sculpture et l'architecture ne fonctionnent pas du tout de la même façon dans l'art roman et dans l'art gothique. Bref, on peut isoler, en gros, ces 11e et 12e siècles pour définir la sculpture romane de manière chronologique. Mais si on prend telle ou telle région en particulier, évidemment, le cadre chronologique ne sera pas le même. En Bretagne, par exemple, l'art roman dure beaucoup plus longtemps qu'en Bourgogne ou en Languedoc. En Allemagne, il dure plus longtemps que dans le Royaume de France. Donc il y a une cartographie à faire de tous ces problèmes.
Alors moi, je voulais aussi revenir juste rapidement sur cette question de signature. Est-ce que c'est pas une caractéristique de ce qu'on pourrait commencer à appeler peut-être l'art sacré, qu'il ne faut pas que ce soit signé, justement? Parce que même, et ça remonte à avant le christianisme, puisque il y a une légende ou vérité historique, on raconte que quand Phidias a voulu signer en fait une des statues d'Athéna qu'il avait faite, on l'a chassé de la cité. Déjà, le sculpteur grec qui fait le Parthénon, il ne doit pas donner son nom puisqu'il le fait pour les dieux et non pas pour satisfaire son propre ego. Est-ce que ça peut être un début de direction en fait pour essayer de définir ce que c'est que l'art sacré ? Que c'est pas l'artiste qui est au centre.
Oui, c'est plutôt une conséquence de l'art sacré. L'artiste n'a pas à signer. Ce sont d'ailleurs des débats qu'a connu le Moyen-Âge finissant et qui vont ressurgir à l'époque de la réforme protestante. Les grands réformateurs protestants sont tout à fait hostiles à ce qu'un artiste protestant signe son œuvre. En plus, le problème de la place des images dans les temples calvinistes et luthériens est très très différent de celui des images dans les églises catholiques. Mais donc, à différentes époques de l'histoire, en effet, dans le monde de ce qu'on appelle le sacré, signer une œuvre, c'est-à-dire se valoriser, se mettre en avant, ça a quelque chose d'indécent.
Jean-Pierre Lapierre, sur cette question de la signature des œuvres d'art sacré, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Sur la signature même, non, je crois que tout est dit, ou presque. Là. Ce qui est intéressant, c'est que selon les époques et les lieux, la nature même des œuvres fait qu'elle est signable ou pas signable. Je crois qu'une icône orthodoxe n'a aucune raison d'être signée. Un iconographe obéit à des lois et des
consignes
et des canons qui rendent tout à fait inutile une signature. On a le nom de pas mal d'iconographes. Roubloff, par exemple, le plus célèbre, mais ce sont des gens qui ne sont pas dont la signature n'est pas l'essentiel de l'œuvre. Dans l'art occidental, disons dans l'art catholique ou réformé, le statut de l'auteur, de l'artiste est beaucoup plus divers. En musique, par exemple, les auteurs sont beaucoup plus connus que dans la peinture ou la sculpture, qui est souvent anonyme. Dans l'art catholique, qui était un art très dirigé, mais qui en même temps était extrêmement libre. Rome a toujours laissé énormément de liberté à ses artistes, qu'ils soient sculpteurs, peintres. Les papes eux-mêmes étaient des mécènes. Donc il y a une, à mon avis, c'est peut-être une des causes du surgissement de l'œuvre personnelle. Les luthériens, dont parlait Michel Pastoureau, avaient admis l'image. Parce que elle était pédagogique. On ne priait pas. Les luthériens ne prient pas comme les catholiques devant une image. L'image enseigne. Alors il y a des protestants qui ont pu signer. Il y a Cranach pour les luthériens. Il y a Rembrandt. Mais pour Rembrandt en tout cas, leur œuvre n'était pas d'abord une. Je ne pense pas. En tout cas, il avait reçu des commandes, mais il n'avait pas reçu que des commandes. Et je crois que la signature elle-même varie beaucoup. Bon, je ne parle pas des calvinistes, puisqu'eux n'ont pas d'image du tout. Ils sont un peu comme les juifs ou comme les musulmans. Ils refusent l'image, tandis que les catholiques qui ont rayé le deuxième commandement de l'Exode, tu ne feras pas d'image, ce commandement n'est plus dans le décalogue catholique. Donc ça a permis une profusion, et la profusion fait naître les intérêts, fait naître les intérêts personnels, le goût de la publicité, du nom.
Alors je voulais revenir justement avec vous, Michel Pastoureau, sur cette dimension de l'image et le rôle pédagogique qu'elle a. C'est-à-dire, au fond, c'est une manière d'enseigner, c'est une forme de catéchisme qu'on peut trouver à travers les vitraux, à travers les sculptures et ce qu'on voit dans les églises et les cathédrales.
Oui, donc moi je ne parle que du Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, le nombre de personnes sachant lire est assez réduit, moins qu'on le croit. Hein. On peut dire que vers la fin du XIIe siècle, 8-10% de la population sait lire, mais en revanche, moins de 1% sait écrire. Hein. Ça ne marche pas ensemble au Moyen-Âge, c'est pas évident, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait écrire. Donc pour les 90%, 95% restants, évidemment, l'image a une fonction, parmi d'autres, qui est pédagogique. Il faut qu'elle enseigne, et qu'elle enseigne à la fois les dogmes de la foi chrétienne et la morale qui s'y rattache. Et elle a cette double fonction, parfois même d'autres fonctions pédagogiques. Et donc, c'est plus ou moins direct, plus ou moins lisible. Parfois, on comprend le message sans intermédiaire. Parfois, il faut qu'il soit un peu décodé par quelqu'un qui aide. Un des acquis récents aussi des recherches sur la sculpture romane consiste à mettre plus qu'on ne le faisait précédemment en rapport les programmes sculptés que l'on voit ici ou là, et pour ce qui me concerne au tympan et au portail, et ce qui se passe à cet endroit. Qu'est-ce qu'on y fait? Qui regarde? Combien de temps? à quel moment. Il y a des lectures, il y a des prières, il y a des sermons, il y a des chants qui se font à tel endroit, à tel moment de l'année. Et ça aide à comprendre ce que l'on voit sculpté dans la pierre. Donc l'Église, c'est non seulement c'est un tout, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un réseau. Et il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce que ce sont des moines? Est-ce que ce sont des clercs séculiers? Est-ce qu'il y a telle ou telle relique qui sont conservées de l'autre côté du mur, à l'intérieur de la nef ou à l'intérieur du transept pour le portail sud, et qui explique qu'on a telle histoire représentée dans la pierre en liaison avec les reliques de tel ou tel saint. Bref, tout ça ne peut pas s'étudier isolément, mais il faut vraiment prendre l'Église comme un tout et essayer de reconstituer ce que l'on y fait. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air évident, mais qui est relativement récent chez les historiens de l'art et les archéologues.
Oui, et Jean-Pierre Lapierre, vous avez un article entier, hein, de plusieurs pages, très très abondant, enfin très 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 fouillé, je dirais, sur justement sur l'image. En fait, le mot image apparaît, et vous mettez aussi l'accent sur cette fonction pédagogique. Mais vous dites, et ça m'a beaucoup intéressé, toute image comme tout texte est un commentaire qui a besoin d'être commenté, acte de foi et aveu d'ignorance à la fois, qui demande à être éclairé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Le fait que l'image est déjà en soi un commentaire.
C'est déjà une interprétation, parce que la plupart des images commentées, enfin, est illustrée, on va dire, illustrée l'écriture. Il y a une expression qu'on retrouve dans le livre de Michel Pastoureau, qui a été commentée, qui a été discutée, c'est une cathédrale, c'est la Bible des illettrés. L'origine de cette expression, c'est très ancien, c'est l'an 600, le pape Grégoire le Grand qui écrit à un évêque de Marseille qui s'appelle Sérénus. L'évêque de Marseille trouvait que toutes les images servaient l'idolâtrie, il avait fait supprimer toutes les images. Et le pape Grégoire le Grand lui dit non, garder les images, ça n'est pas forcément pour être adoré, c'est fait aussi pour les illettrés, illiterati. Les illettrés, à mon avis, ce ne sont pas les analphabètes. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas analphabètes, on l'a dit tout à l'heure, Michel Pastoureau l'a dit. Et c'est, d'abord, analphabète, c'est un néologisme. Hein, le mot n'est pas dans littré. Tandis que les illiterati, c'est ceux qui n'avaient pas qui n'avaient pas de rapport avec la littérature, et avec l'écriture, notamment. Et l'écriture, quand vous mettez un grand E à l'écriture, c'est la Bible. Donc la fonction, une des fonctions principales des images, c'était d'illustrer, donc de commenter la Bible, parce que on ne lit pas la Bible brutalement, on lui donne toujours un sens, et il y avait même quatre sens de l'écriture au Moyen Âge. Donc un artiste, un sculpteur, un peintre reçoit une commande de quelqu'un qui l'oriente déjà, et devant cette image, les gens vont méditer, vont écouter des sermons, vont eux-mêmes commenter. Je crois que c'est...
Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien, justement, entre cette approche-là du texte, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas le droit de lire le texte, si je ne m'abuse. Pendant très longtemps, les gens n'ont pas le droit d'un droit d'accès direct au texte, ce qui n'est pas du tout le cas dans le judaïsme et dans l'islam. Est-ce que on peut voir un lien là, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un rapport au texte qui fait qu'on n'a plus besoin de l'image, et du coup, l'image devient un lieu d'idolâtrie, tandis que là, on a besoin de l'image parce que c'est le texte, c'est la bande dessinée, je dirais, c'est le texte sous forme de bande dessinée.
Oui, l'accès à l'écriture n'était pas interdit tout de même. Il y a des commentaires de tous les livres, la patrologie latine qui fait plus de 200 volumes, il y a énormément de volumes qui sont uniquement des commentaires de l'écriture. Alors je sais bien que c'est pas l'écriture elle-même, mais il a bien fallu lire. La première traduction latine de l'écriture, c'est 4e siècle, c'est Saint Jérôme. Donc elle était lue et relue et critiquée d'ailleurs.
Pour reprendre la question de Lélie, ce sont les clercs qui faisaient
tout ça. Oui.
Est-ce qu'on encourageait les laïcs à lire l'écriture ou on les dissuadait plutôt en disant vaut mieux qu'on vous explique?
Je crois qu'on pouvait difficilement les encourager dans la mesure où ils ne savaient pas lire. Et les commentaires étaient gros.
Le problème n'est pas interdiction, c'est de facto, ceux qui ne savent pas lire n'ont pas un accès direct, donc passent par des intermédiaires, mais quand même, ceux qui apprennent à lire dans le psautier, par exemple, qui est le livre de base pour commencer la lecture, au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne, donc c'est pas un problème d'interdiction, c'est un problème de méconnaissance, d'un savoir-faire qu'on n'a pas.
Je reviens, si vous permettez, à la Bible des illettrés. Émile Malle, d'ailleurs, ne parle pas de la Bible des illettrés, il parle de la Bible des pauvres. Et la Bible des pauvres, c'était le titre d'un recueil d'images au moment de la naissance de la xylographie et de l'imprimerie. Et ces images, et qui ont eu énormément de succès, qui ont été recopiées par énormément d'artistes jusqu'aux célèbres tapisseries de la Chaise-Dieu, c'était trois images qui mettaient en rapport le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et sur ces images, il y a du texte, il y a parfois la moitié de la surface de papier qui est utilisée par des citations de l'Écriture, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et sur les tympans, on peut imaginer que la peinture a disparu, mais il y a des tympans comme celui de Conques, où l'Écriture était gravée et où elle est restée. Donc il y a de l'Écriture, ça n'était pas seulement pour des illettrés, je crois.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lely Onvar.
Michel Pastoureau, vous qui avez vu, étudier des centaines, voire des milliers de tympans et portails romans, quelles sont les au moins des centaines, quelles sont les scènes les plus représentées?
C'est le jugement dernier qui est peut-être la vedette iconographique des tympans, avec donc la séparation des élus et des damnés, le Christ juge, l'intervention de Saint Michel, sa balance pour peser les âmes, etc. Mais pour enchaîner avec la question précédente, c'est un savoir partagé par tout le monde. Hein. Mais pendant des siècles et des siècles, il n'y a pas que les images, il y a les sermons aussi. Tout au long de sa vie, un chrétien, homme ou femme, entend raconter les mêmes histoires, commenter les mêmes passages de l'Écriture. Et ça dure vraiment très très longtemps. Moi qui suis un vieux prof maintenant, après 35 ans d'enseignement universitaire, j'ai vu la différence. Quand j'étais un jeune prof, j'avais en faire comme public des étudiants qui étaient pour beaucoup déchristianisés, mais qui avaient encore un certain bagage. Ils n'avaient pas besoin d'expliquer chaque mot, d'expliquer ce qu'était une crucifixion. Aujourd'hui, j'ai affaire à des ignorants complets dans ce domaine-là. Donc, et mes collègues qui, ou moi-même, quand on a besoin de la mythologie gréco-romaine pour comprendre l'histoire de l'art, c'est absolument indispensable. C'est pareil, un savoir qui s'est complètement perdu, non pas au fil du temps, mais depuis une génération à peu près. C'est une accélération totale des méconnaissances, pour laisser peut-être place à d'autres types de savoirs, mais en tout cas pour l'historien et l'historien de l'art, ça devient extrêmement difficile d'enseigner à l'université.
En tout cas, ce que vous nous dites l'un et l'autre, c'est qu'au Moyen-Âge, effectivement, les gens, qui ne savaient pas lire, connaissaient bien les scènes de la vie du Christ, et quand voyaient un tympan, ils savaient de quoi il s'agissait.
Il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a des passages vedettes et puis d'autres
moins. Alors, j'en reviens à mes passages vedettes, parce que c'est la question que je vais commencer à vous poser. Donc, vous nous dites le jugement dernier est extrêmement représenté. C'est vrai qu'on a tous en tête beaucoup d'églises, d'abbayes, de cathédrales où on voit effectivement le jugement dernier. Est-ce que ça, c'est parce que, enfin, quelle est la raison d'ailleurs de cette surreprésentation du jugement dernier qui est pas non plus le thème central de toute la Bible? Pourquoi est-ce que c'est aussi représenté?
Parce que nous sommes dans une période, fin du 11e, 12e siècle, où, comment dirais-je, les théologiens, une partie des théologiens et les papes successifs ont décidé d'accorder une plus grande importance au dogme des œuvres, c'est-à-dire du comportement ici-bas, en liaison avec la vie future. C'est moins vrai pendant le haut Moyen-Âge, en tout cas pas partout. Ça n'est pas une complète nouveauté, mais ça devient important. Donc, il faut montrer que ceux qui se sont mal conduits ici-bas, qui ont péché, seront punis dans l'au-delà et montrer quel type de punition est associé à quel type de péché. On a par exemple beaucoup de scènes de dévoration dans la sculpture romane. Alors c'est destiné à ceux qui vont aller en enfer, mais être dévoré par la tête ou être dévoré par le bras ou par le pied, ça n'est pas la même chose. Ça correspond à des péchés qui peuvent être la luxure, qui peuvent être la cupidité, qui peuvent être l'orgueil. Donc il y a toute une pédagogie morale derrière ces scène, et c'est en liaison avec certain nombre d'idées non pas nouvelles, mais mises en avant par une partie des théologiens au XIe et XIIe siècle. Et inversement, il y a des théologiens et des prélats bâtisseurs et commanditaires qui refusent cette réforme de l'Église et des fidèles et qui ont des programmes iconographiques qui ne montrent pas du tout cela, mais tout à fait autre chose.
Quels sont justement les autres programmes iconographiques très représentés en dehors du jugement dernier?
Bien, on est, le protestantisme est encore loin, mais il y a tout un courant de l'Église au Moyen-Âge qui souligne qu'on ne peut pas infléchir les volontés divines, ce que décide Dieu, le fidèle ne peut pas influer sur, donc qu'on se comporte bien ou qu'on se comporte mal, évidemment ils vont se comporter bien, mais c'est Dieu qui décide. Cette espèce d'arithmétique qui va prendre l'ampleur au fil des siècles médiévaux, du bien et du mal qu'on a fait sur terre, qui se reproduit dans l'au-delà selon que l'on va en enfer ou au paradis, et même à partir de la fin du XIIe siècle au purgatoire, c'est un certain courant au sein du christianisme, mais ça n'est pas le seul. Il y a le courant contraire, plus proche de ce que sera donc le jansénisme plus tard, puis le protestantisme et même l'islam. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Voilà.
Et comment ça se représente, ça?
Ça se représente avec des choix iconographiques qui ne sont pas les mêmes. Le jugement dernier, c'est au fond une espèce de balance. D'ailleurs, la balance est là, entre le bien et le mal, les péchés qu'on a commis, au contraire, les vertus qu'on a montrées. Tandis que une autre iconographie, ce serait de montrer la toute-puissance de Dieu, ce serait de montrer le Christ sauveur de tous les hommes, non seulement de tous les hommes, mais on se pose des questions. Au Moyen-Âge, Saint Paul se posait déjà la question, est-ce qu'il est aussi venu sauver les animaux? Est-ce que les animaux ressuscitent après la mort? Est-ce qu'ils vont en enfer, au paradis, un enfer et un paradis propre au monde animal, ou à chaque espèce animale, ou bien le même que pour les humains? Certains théologiens, ça nous fait rire aujourd'hui, mais c'est une question grave dont on débat à l'université de Paris au XIIIe siècle, par exemple. Certains théologiens soulignent qu'il est né dans une étable, c'est donc qu'il est venu sauver aussi les animaux et que l'Église, c'est la maison de tous les êtres vivants. Il y a des débats à l'époque romane, est-ce que les animaux ont le droit d'entrer dans les églises ? Des évêques sont consultés, ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains disent, oui, les animaux de petite taille, mais pas les chevaux. D'autres, au contraire, oui, les chevaux et les chiens, mais pas les faucons. Bref, on a des débats passionnants. Ça nous fait un peu sourire aujourd'hui, mais nous sommes anachroniques, parce que nos débats d'aujourd'hui, évidemment, feront sourire nos successeurs dans 5 ou 10 siècles sur des questions qui nous semblent absolument fondamentales et qui seront risibles pour nos successeurs.
Alors, moi, la question que je me suis posée en regardant votre livre, et d'ailleurs en visitant Conques, je m'étais déjà posé cette question, c'est que c'est quand même très étrange que à l'entrée d'un lieu qui est censé être un lieu de paix, un lieu de prière, etc., on met des images aussi effrayantes. Parce que maintenant, on trouve ça beau. C'est vrai, mais enfin, le but, c'est quand même de faire peur. C'est très étrange que sur le seuil du sacré, on fasse à ce point peur aux gens.
Non, justement, on les met à l'extérieur, on ne les met pas à l'intérieur. Donc, il faut se dépouiller avant de passer du dehors, qui est le monde profane, vers le dedans, qui est le monde sacré, d'où un certain nombre d'images monstrueuses, abominables. Nos surlectures d'aujourd'hui voient même dans tel ou tel motif de l'obscénité ou du scatologique, alors que souvent, ce sont des surlectures totalement anachroniques. Mais il y a quand même cette idée que le mal, les forces du mal, les péchés, c'est plutôt pour l'extérieur de l'Église, et une fois qu'on est entré dedans, c'est le Dieu d'amour qui est là. Bon, il faut nuancer, parce qu'à l'intérieur de l'Église, la nef, ça n'est pas le cœur, etc.
Oui, il y a des jugements derniers à l'intérieur des Églises, oui. Mais c'est toujours sur le mur extérieur, le mur de sortie. Il y a Torcello pour le roman, il y a à l'intérieur de la cathédrale d'Albi, il y a un très grand jugement dernier gothique, mais en effet, c'est jamais du côté de la célébration.
C'est pour ça qu'il faut toujours savoir où l'on se trouve. On ne peut pas faire ce type d'étude à partir de photographies. Il faut aller sur le terrain et savoir telle scène, sculptée ou peinte, elle est à tel endroit dans l'église, dedans, dehors, dans la nef, dans le cœur, côté sud, côté nord. Ça n'est pas du tout la même chose.
J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi on a associé les 4 évangélistes à notamment des... Il n'y a pas que des animaux, je crois, un 3 et puis un symbole qui est plutôt un ange. Pourquoi on a associé les évangélistes ?
Ces 4 animaux ailés.
Voilà. Expliquez-nous ces symboles qui ont été associés aux évangélistes et pour quelles raisons ça s'est fait ?
Oh, c'est compliqué parce que ça fait l'objet de beaucoup de commentaires et de beaucoup de significations différentes.
Vous résumez ça très bien.
Bon, alors, le départ, ce sont les 4 vivants dont parle Ézéchiel dans une vision où ils sont présents. Et c'est donc une vision eschatologique. Et là, arrivée, c'est un peu le début des évangiles. Le début des évangiles où on a trouvé, parce qu'il fallait leur trouver, on appelle ça le tétramorphe, hein, c'est les 4 formes de la présence divine. Et comme il y avait 4 évangiles, c'était facile de trouver à chacun une des formes de l'évangile. Alors il y en a un qui est beaucoup plus je crois que le bœuf, c'est Luc, parce qu'il est beaucoup plus attentif, si je me trompe, à la faudrait voir dans la pierre, hein, pour vérifier.
C'est pas motif par cœur.
3000 pages.
Vous savez, j'ai mis 16 ans, alors. Les premiers articles. Enfin, le bœuf est attribué à Saint Luc parce qu'il a parlé de l'enfance de Jésus. Enfin, voilà, chacun a son emblème.
Si on Jean, c'est l'aigle parce qu'il a un regard. Il voit loin, etc. Oui. Donc ce sont des symboles qui ont été donc associés en fonction des caractéristiques de
chaque évangile. Des attributs.
Qui ont mis un certain temps avant de se fixer, c'est-à-dire que l'association de telle figure avec tel évangéliste, ça a pas mal changé.
Oui, ça variait.
Pendant 4 ou 5 siècles. Et à partir de quand ça a été représenté dans l'iconographie?
À partir de l'époque carolingienne. Représenté très tôt, mais Jean l'aigle, le bœuf pour Luc, l'ange pour Matthieu, et le lion pour Marc, c'est la formule définitive. Il faut attendre le 7e, 8e, 9e siècle.
Mais alors, je voudrais aussi, là, on a beaucoup parlé de l'aspect pédagogique, historique, de ces images, de ces représentations. En quoi est-ce que ceux qui font ces images veulent aussi inviter, non pas seulement à revisiter, je dirais, l'histoire sainte, mais aussi à une forme de contemplation ? C'est-à-dire, ça fait quand même partie de toutes les formes d'oraison et de contemplation que d'avoir, en tout cas dans la tradition chrétienne, le support de l'image.
L'image chrétienne, de toute façon, est déjà un peu tardive, hein, puisqu'il n'y a pas grand-chose avant... Il n'y a pas grand-chose avant les catacombes, pas grand-chose avant Constantin le Grand, donc et les premières images étaient des comment dire inspirées par les cultes romains, donc c'est pas je sais pas si on peut
ce
dater.
Ce sont plutôt dans les pratiques de piété individuelle de la fin du Moyen Âge que cet aspect prend de l'ampleur, avec d'abord la circulation des images pieuses et puis des livres de piété individuelle, piété des laïcs. Les clercs avaient déjà leurs propres livres, mais les laïcs commencent à avoir des livres d'heures à la fin du XIIIe siècle.
Qui seront imprimés.
Imprimés plus tard. Oui, l'imprimerie change aussi les rapports entre le texte sacré et le fidèle. Et des images peuvent être présentes ou glissées entre les pages d'un livre, manuscrit ou imprimé. Donc c'est plutôt de ce côté-là que l'image remplit ses fonctions de contemplation. Mais il y a toujours une méfiance des théologiens envers un culte excessif des images. Ça n'est pas au point de bannir, enfin, il y a eu des débats à plusieurs...
Oui, la grande querelle iconoclaste.
Voilà, elle revient à plusieurs reprises dans l'histoire du christianisme, mais elle n'est pas toujours aussi drastique que dans d'autres religions, mais on se méfie quand même d'un culte trop grand des images peintes et sculptées. Par exemple, nous n'avons aucune statue d'animal entre la chute de l'Empire romain et le XIIe siècle dans l'Europe chrétienne. Ce serait complètement idolâtrique. Et puis, on a des animaux intégrés à des scènes, mais pris isolément pour eux-mêmes, ça a disparu pendant plus d'un millénaire. Et puis cela revient doucement à partir du XIIe siècle, des animaux deviennent statues et sont seuls représentés. Et l'Église laisse faire, finalement, elle a d'autres préoccupations.
Oui, donc la question de la beauté et de l'esthétique, c'est quelque chose de très tardif. C'est-à-dire l'idée de dire que quelque chose, on fait quelque chose de beau parce que la contemplation du beau permet de remonter au créateur du beau, c'est donc quelque chose d'assez tardif. C'est pas...
C'est surtout très culturel. On ne peut définir le beau de la même façon aux différentes époques. Et nous sommes souvent
en anachronique. Les néoplatoniciens qui ont parlé du beau et du vrai et du bien.
Oui, mais justement, comment ça s'est intégré à l'art sacré chrétien?
C'est pas d'abord. Je pense pas que ce soit d'abord quand Denis l'Aréopagite parle du beau, il pense pas aux images. Hein. Je pense pas du tout.
Non, et en plus, une image pour le Moyen Âge, la couleur est très importante et dans la sculpture romane, elle a totalement disparu. Donc c'est une dimension qui faisait partie des fonctions de l'image et qu'on ne peut pas étudier. Il y avait une fonction esthétique, une fonction rythmique, une fonction musicale à partir de la couleur et tout ça a disparu. C'était ce que le fidèle voyait en premier. Des documents comptables nous apprennent que pour la sculpture romane et pour la sculpture gothique, le peintre qui peint la pierre est payé plus cher que le sculpteur. Donc on sent bien que c'est plus important, la couleur. Mais oui, le beau, c'est complètement culturel. Donc ce qui nous semble beau, peut-être n'était pas beau pour les contemporains, quelle que soit l'époque et la culture concernée. En outre, il y a l'idée au Moyen-Âge qu'on fait du beau pour Dieu, pas pour les hommes ici-bas, enfin quand il s'agit d'art sacré. C'est pour ça qu'on fait des images qui ne sont pas faites pour être vues. Par exemple, des vitraux qui sont placés tellement haut que personne ne peut voir de quoi il s'agit, sont réalisés avec un très grand soin et un souci du détail parce qu'ils sont offerts à Dieu.
Thank you.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélian Var.
Vous disiez quelque chose de très intéressant, Michel Pastour, on pourrait développer un peu ça, c'est l'idée de, effectivement, on a parlé souvent dans ces émissions de la vie spirituelle à travers un certain nombre d'exercices, etc. Finalement, l'art, c'est un chemin spirituel aussi, c'est-à-dire ça transforme celui qui le fait. Est-ce qu'on a des textes ou des choses qui nous permettent de savoir si pour tous ces sculpteurs, ces peintres qui faisaient des tympans, des portails, c'était pour eux comme l'équivalent d'un chemin de vie monastique ou un travail de transformation intérieure et une quête spirituelle.
Pour le Moyen-Âge chrétien, il y a quelques petits témoignages où tel peintre sculpteur souligne que le fait de peindre telle ou telle image soit l'a fait changer d'avis, soit l'a conduit vers une vie meilleure, mais à chaque fois ce sont un peu des topoi, donc on reste un petit peu perplexe. Mais enfin, on ne peut pas évacuer cette dimension-là, elle existe, mais nous n'avons pas assez de sources pour bien l'étudier, alors que pour l'époque romantique, par exemple, on a à foison toutes sortes de témoignages de conversion de l'artiste parce que soit il a vu, soit il a réalisé telle ou telle image en rapport avec le sacré, quel que soit ce sacré.
D'ailleurs, les thèmes romantiques sont aussi plus mystiques. Enfin, la lutte de Jacob avec l'ange de la croix, c'est pas très narratif. Enfin, ça l'est, mais c'est surtout une méditation.
Mais ceux qui réalisaient, c'était donc des artisans. Qui avait, c'était pas spécialement des religieux. Il y avait, c'était un monde
deux,
profane.
Il y a notamment en milieu monastique, les moines manient le tailleur ou éventuellement le pinceau pour les livres. Mais ce peut être aussi des laïcs. Et en amont, il y a le commanditaire qui peut être l'évêque, qui peut être l'abbé, qui peut être le seigneur du lieu, qui peut être le collège des chanoines, le doyen du chapitre. Bref, et ce sont ces personnages-là qui jouent le rôle le plus important. Les artisans, et même ceux que nous appelons les artistes, sont des exécutants. Et leur marge de manœuvre est assez réduite. Et ce qui compte en plus au Moyen-Âge, pendant longtemps, c'est de faire, comme d'habitude, la nouveauté. On s'en méfie énormément. Et parce qu'elle est nouveauté, elle a peu de vertus pédagogiques.
Mais alors, c'est aussi une reconstruction moderne de dire que, par exemple, certains tableaux de Rembrandt semble quand même représenter quelque chose de la révélation. Est-ce que le travail de la lumière, alors même avant Rembrandt, je veux dire, il y a des pages chez Bernard de Clairvaux qui dit bien que l'architecture, c'est aussi une saisie de la lumière, c'est fait pour révéler la lumière, pour faire entrer la lumière comme symbole divin. Mais bon, donc plus tardivement chez Rembrandt, je pense à certaines... il en a fait plusieurs, mais enfin, particulier à une visitation d'Emmaüs, qui est un travail de la lumière qui se présente quand même. On a l'impression qu'il a fait ça pour mettre sous nos yeux le phénomène même de la révélation. Donc il y a quand même une expérience mystique qui est en jeu bien avant le romantisme.
Il y a toujours une tendance, je ne dis pas une tentation, il y a toujours une tendance de prendre la chose pour la signification. Et par exemple, pour la lumière, je crois qu'au Moyen-Âge, on a cru à un moment donné que la lumière qui traversait les vitraux se chargeait de grâce. Hein, c'est pas contradictoire. Bon, aujourd'hui, ça paraît aussi anachronique et scientifiquement infondé, mais je crois pas que ce soit contradictoire.
Non, au contraire.
Mais alors Rembrandt,
est-ce que
Rembrandt
c'est la fonction de l'art?
Ça maintenant. Rembrandt était un grand peintre religieux, il n'était pas tout à fait une persona grata dans son milieu.
Mais on peut opposer d'ailleurs Rembrandt, peintre calviniste aux Pays-Bas du Nord,
et puis Mennonite, je crois.
Et Rubens, peintre catholique aux Pays-Bas du Sud, il n'y a qu'une génération d'écart, ou un peu plus. Ils ont vis-à-vis de la lumière et du sacré des comportements tout à fait différents. En tant que peintre, Rubens pense que la couleur c'est de la lumière, donc il met de la couleur partout pour étendre la part du divin quand on lui confie une mission. Et Rembrandt, calviniste, pense que la couleur, c'est de la matière, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de rapport avec la lumière, et donc il travaille en camailleur, monochrome, il met en scène la lumière d'une manière tout à fait différente. Donc, vous voyez, au XVIIe siècle, deux très grands peintres ont des conceptions et des façons de travailler totalement différentes. L'un est catholique, l'autre est protestant.
Oui, mais en même temps, ils ont tous les deux cette idée qu'il faut saisir la lumière d'une manière, représenter la lumière.
Ah, Dieu et lumière, ça c'est voilà. Une idée forte qui émerge très tôt et qui s'accentue à partir du XIIe siècle, oui.
C'est le début de la Bible, hein, la lumière.
Oui.
Et alors, Dieu est lumière, mais Dieu est aussi, dans tout cet art d'Occident, en opposition évidemment radicale pour le coup avec l'art islamique par exemple, Dieu est aussi, peut prendre les formes anthropomorphes. Comment ça se justifie théologiquement? C'est quand même très étrange de représenter sur la chapelle Sixtine Dieu sous la forme d'un homme aussi musclé. Et...
c'est l'incarnation.
Pour Jésus, oui. Mais Dieu.
Alors.
Le Père,
disons que tout le, ça occupait beaucoup le débat sur l'iconoclasme. Les orthodoxes vous disent, l'image était interdite, mais dès le moment où Dieu s'est incarné, c'est-à-dire où il a son Fils s'est fait homme, l'homme peut représenter l'homme, puisque il a été en quelque sorte, c'est une incarnation de Dieu. Alors après ça, on a fait le rapprochement avec par exemple le voile de Véronique. Si Jésus c'est lui-même son image, pourquoi nous priverions-nous de la représenter?
Enfin, oui, l'image du Christ, on comprend. Oui, c'est l'image de Dieu le Père qui est inconnaissable.
Jupitérien, comme ça.
C'est très grec ça.
Ça, je crois, c'est la Renaissance.
Certains théologiens soulignent que le problème marche dans l'autre sens. Dieu a fait l'homme à son image, donc c'est l'homme qui est à l'image de Dieu, c'est pas Dieu qui est à l'image de l'homme. Donc ça fait tomber, au fond, cette interrogation par rapport à d'autres religions.
Oui, mais enfin, ça le vide de sa transcendance, quand même, le fait de le représenter, non?
Et ça... Là, je pense que vous confondez deux choses. Pour le christianisme, pour le système les systèmes de valeurs qui s'y rattachent, il y a une différence très forte entre la réalité et la vérité. Et la réalité, elle est matérielle, elle est physique, et la vérité, elle est métaphysique. Nous, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, le réel et le vrai, pour nous, c'est pareil. Dans les sociétés anciennes, c'est pas du tout pareil, ça n'a aucun rapport. Donc, nous croyons voir de la ressemblance, parce que du point de vue matériel et de la réalité des choses, il y a en effet une espèce de cousinage ou de parenté, mais sur le plan du vrai, c'est-à-dire de la métaphysique, il n'y en a pas.
Donc l'art, en fait, c'est l'espace du réel. Il n'a rien à voir avec la vérité, d'une certaine façon.
Il a à voir, quand même, mais il est obligé de s'exprimer dans l'espace du réel et du matériel, même. Et du matériel. D'où aussi, on n'en a pas parlé, mais vis-à-vis des matériaux que l'on emploie, quand on est artiste, en rapport avec le sacré, des hiérarchies. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des matériaux qu'on laisse de côté. Il y a des matériaux plus valorisés que d'autres.
Qu'est-ce qui est le plus noble au Moyen-Âge comme matériau?
Ce qu'il y a de plus noble, il y a une hiérarchie, c'est les perles. Il n'y a rien de mieux que les perles. Ensuite, les pierres précieuses. Ensuite, les métaux précieux, puis l'ivoire, puis la soie. Enfin, on a beaucoup de textes qui nous parlent de ces problèmes-là. Mais même un sculpteur sur bois qui va faire un certain nombre de saints, il évitera d'employer des bois tirés d'arbres réputés néfastes, comme le noyer ou l'aulne, par exemple. Et puis, il puisera dans des bois valorisés. L'arbre préféré dans l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est le tilleul. Alors, le bois de tilleul est particulièrement vénéré. En plus, il travaille facilement.
Vous allez vous dire, c'est pour des raisons pratiques ou des raisons symboliques?
C'est un mélange des deux. Et l'historien est parfois dérouté pour faire la part des choses. Le tilleul, c'est l'arbre de la musique, par exemple. Virgile le dit déjà parce qu'il retentit de la musique des abeilles. Et tous les instruments de musique de la fin du Moyen-Âge qui ne sont pas revenus sont en bois de tilleul. Alors on se dit c'est pour des raisons symboliques, mais il se trouve que le bois de tilleul a aussi des propriétés acoustiques remarquables, qu'il est tendre et léger, qu'il se travaille facilement. Donc les anciens ne faisaient pas cette différence que nous cherchons à faire constamment entre le matériel et le symbolique.
Donc l'homme médiéval marche à travers une forêt de symboles avec une aisance.
Oui. Et d'autre part, je ne sais pas si on voit beaucoup Dieu le Père au Moyen-Âge.
On voit plus son fils, c'est certain.
Oui, comment est-ce qu'apparaissent les premières représentations d'un dieu barbu
Il y a la, du père. Oui, il y a la Renaissance. Et avant, il y a les Trinités.
Oui,
il fallait que le père soit plus âgé que le fils.
Voilà. Et donc, quand on représente la Trinité, en effet, il faut montrer la hiérarchie des âges et la pilosité est un moyen.
Mais à l'époque romane, il n'y a pas tellement de représentations.
A priorité au Christ, et puis on voit la Vierge qui commence à prendre de plus en plus de place, hein, entre le début du XIe siècle et la fin du XIIe siècle. Le statut de la Vierge change beaucoup, et le culte marial se développe à grande échelle, au point qu'à la fin du Moyen-Âge, elle a parfois éclipsé son fils. Luther dira que le christianisme a fait place au marianisme, pour critiquer ce culte qu'il juge totalement excessif.
Et pour le symbole de la croix, parce que j'ai lu un texte très humoristique de Lucien Gerfagnon dans lequel il rigole du fait que dans des films, genre, vous voyez, des films de l'époque, juste du premier siècle du christianisme, on représente les chrétiens ayant une croix chez eux, et il dit, mais c'est comme si on avait, un cercueil chez soi, enfin c'est très très mortifère. À partir de quand le symbole de la croix devient un symbole familier, que l'on garde, qu'on l'on met dans sa chambre à coucher, etc. Il me semble que c'est assez récent.
C'est pas dans la chambre à coucher. D'abord, c'est plus un crucifix qu'une croix. C'est encore pire, vous allez me dire. Mais la première représentation du crucifié, c'est une caricature. On n'a pas beaucoup parlé des caricatures, mais c'est une caricature qu'on a faite sans doute par un soldat romain sur un graffito, on va dire, sur un mur qui représente un autre soldat romain, chrétien, en train d'adorer, c'est ce que dit la légende, un tel adore son Dieu. Et on voit un crucifix à tête d'âne. Donc déjà, à l'époque, c'était pas, à mon avis, c'était anormal.
Disons. C'est péjoratif.
C'est péjoratif, au moins pour ceux qui le voient.
Et à partir de quelle époque les croix se généralisent un peu dans les églises, dans...
C'est progressif. La croix finit par éliminer un certain nombre d'autres symboles christologiques, le poisson, l'agneau.
La hache.
Un floraire aussi du Christ qui était assez développé encore à l'époque carolingienne, le lys notamment. C'est aussi une façon de lutter contre le culte des images, c'est-à-dire une image unique permet d'évacuer toutes les autres. Donc il y a un peu de cela, mais les comportements ont varié assez longtemps vis-à-vis du crucifix et des images.
Eh bien, nous allons terminer cette émission. Je rappelle vos deux ouvrages. Jean-Pi Lapierre, Le musée chrétien, trois magnifiques volumes avec la collaboration de Pierre Donin pour les photographies. Et puis vous, Michel Pastoureau, Tympan et Portail roman, avec aussi des photographies de Vincent Culinière, tous les deux aux éditions du Seuil. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.